Merci d'avoir les deux textes liturgiques pour cette fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au 3 octobre, l'épître est tirée du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, je ferai couler sur elle comme un fleuve de paix et la gloire des nations comme un torrent qui déborde. Vous serez nourris de lait, portés sur le sein, caressés sur les genoux. Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. Vous le verrez, votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront vigueur comme l'herbe, et la main du Seigneur se fera connaître à ses serviteurs. Se lève pour l'Évangile. Suis le Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Qui, selon vous, est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, appelant un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez semblables à de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Celui donc qui se sera fait petit comme ce petit enfant, c'est lui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Veuillez vous asseoir. Alors, ce mercredi, nous aurons... le cours sur les actes du magistère ici à 20h. Je vous rappelle que ce cours est placé vers 22h, 22h30 sur le site internet en vidéo. Donc vous pouvez l'écouter pendant la semaine. Je vous conseille beaucoup aussi de faire un effort d'écouter ces conférences sur les actes du magistère, l'explication des encycliques pontificales, c'est quelque chose de très important pour justement s'obliger à travailler et s'imprégner de la doctrine traditionnelle de l'Église. Je vous rappelle que le prochain repas aura lieu le dimanche 16 octobre, ici. Demain matin, la messe sera à 8h, et mardi à 10h. Après, je ne sais pas encore, je passerai un coup de téléphone à ceux qui viennent à la messe en semaine pour vous avertir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, comme vous le savez sans doute, la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est importante, surtout pour nous en France, puisque c'est la patronne secondaire de notre pays. Et il y a deux saints, de très grands saints dans l'histoire de l'Église, qui nous ont été volés littéralement par les modernes. Les modernes, qu'ils soient catholiques de l'Église du Vatican II ou qui n'aient pas la foi, il y a deux saints qui tolèrent, qu'ils aiment même bien. Saint François d'Assise et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mais ils les tolèrent parce qu'ils ont complètement détruit la sainteté de Saint François d'Assise et de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint François d'Assise, il l'aime bien parce qu'il aimait les animaux. Alors c'est devenu littéralement le patron plus ou moins de tous les écologistes de tout poil, ceux qui pensent qu'il faut absolument sauver les petites fleurs, les petits oiseaux, les petites baleines ou les grosses baleines et les petits phoques, et qui tuent tranquillement, sans aucun scrupule de conscience, tous les bébés sur lesquels ils peuvent mettre la main. L'hypocrisie du monde moderne. Mais je voudrais vous parler de Sainte Thérèse. Sainte Thérèse aussi, il faut faire très attention à ça. Sa sainteté a été totalement détruite dans l'Église moderne. Quand on parle de Sainte Thérèse dans l'Enfant Jésus, on parle de la petite voix d'enfance. Alors beaucoup de gens qui ont un pois chiche dans le cerveau pensent que petite voix d'enfance, c'est tout mignon, c'est tout beau, c'est tout gentil, on se met devant le bon Dieu et tout va très bien. Ils oublient complètement un détail. La petite voix d'enfance, c'est la voix royale de la croix. Donc on laisse croire aux gens avec une fausse dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. On laisse croire aux gens que la dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que la voie d'enfance de Sainte Thérèse de Jésus, c'est une voie facile. À tel point que son livre, qui est magnifique, qui s'appelle l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, est un livre qui peut être extrêmement dangereux pour les gens qui ne sont pas équilibrés. Je vais vous expliquer parce que c'est important de comprendre ces choses-là. Êtes-vous choqué parce que genre, oh, monsieur l'abbé, comment vous critiquez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus? Je ne critique pas du tout Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est une des plus grandes saintes de tous les temps, c'est certain. Mais son livre peut être dangereux si on ne le comprend pas. Parce que beaucoup de gens, surtout les jeunes filles, ont lu l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, n'ont vu que la partie, je dirais, la partie de l'iceberg qui dépasse l'eau, et oublient qu'il y a 9 dixièmes de la glace en dessous. Et ils ne comprennent pas justement que dans la dévotion. Ils ne comprennent pas que dans. Ils comprennent pas que dans la dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, il y a justement la croix qui est là. Je vais vous donner un exemple tout simple de comprendre les exemples. Aux États-Unis, quand j'étais là-bas, Sainte Thérèse est très très aimée. Pratiquement toutes les jeunes filles catholiques ont lu l'autobiographie de Sainte Thérèse. Elles ont 20 ans, 22 ans. Elles lisent l'autobiographie de Sainte Thérèse. Oh, c'est magnifique, c'est joli, c'est mignon, c'est tout rose. J'ai une vocation carmélitaine. Au début, je n'ai pas encore beaucoup d'expérience sur ces choses-là. J'ai envoyé comme ça toute une série de jeunes filles rentrer chez les carmélites. Elles ont tenu 15 jours. Au bout de 15 jours, 3 semaines, elles étaient toutes parties. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, elles découvraient que la vie religieuse, c'est la vie de la croix. Que c'est la voie royale de la Sainte Croix. Donc attention à ça, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette espèce de sentimentalisme religieux qui fait beaucoup de mal. À tel point que j'avais été obligé de, quand j'ai compris mes erreurs, j'ai été obligé de, littéralement d'interdire la lecture de ce livre à toute une série de jeunes filles qui utilisaient trop leur cœur et pas assez leur cerveau. Alors, essayons de revoir un petit peu ces choses-là pour bien, encore une fois, remettre la doctrine de l'Église dans notre âme. Encore une fois, pour juger ces choses-là, il ne faut pas juger avec le cœur, il faut juger avec l'âme. L'âme éclairée par la foi, et le bon Dieu, évidemment, qui nous illumine du haut du ciel pour ces choses-là. Donc, Sainte Thérèse, elle est morte très tôt, elle est morte à 24 ans. 24 ans, elle est morte de tuberculose. Après des pénitences terribles au couvent. Avant sa mort, elle a même dit, le bon Dieu l'a permis, le bon Dieu ne l'a pas voulu. Mais il a permis qu'elle mourût très tôt, à 24 ans. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie religieuse, c'est quoi? La vie religieuse, c'est d'abord les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. D'abord, c'est le vœu d'obéissance, qui est de loin plus dur. Le vœu d'obéissance correspond à la vie purgative. Vie purgative, c'est la vie de purification. La vie d'obéissance correspond à l'abandon total de sa volonté propre. Et c'est ce qu'il y a de plus dur dans la vie religieuse. On abandonne sa volonté personnelle en rentrant dans un couvent. Si vous gardez votre volonté propre dans un couvent, ben vous ne serez pas heureuse, il faut partir. Vous ne serez pas heureux, il faut partir. Il ne faut pas y rentrer, plus exactement. Donc, cet abandon total de la volonté propre qui correspond au vœu d'obéissance nécessite plus exactement une docilité de l'intelligence, une docilité de la volonté, une docilité des passions. Et pour soumettre sa volonté, soumettre son intelligence, soumettre ses passions, c'est un combat, mes bien chers frères. Et c'est valable pas simplement pour les religieux, c'est valable aussi pour chacun d'entre nous. La vie est un combat. Et la vie dans un couvent est un combat terrible contre justement sa volonté propre. Deuxièmement, après l'abandon de sa volonté propre, il faut également une disponibilité. Pas simplement avoir abandonné sa volonté propre, mais être heureux d'avoir abandonné sa volonté propre dans un couvent. Et ça correspond à la vie illuminative et au vœu de pauvreté. Encore une fois, une deuxième soumission à la volonté du bon Dieu dans la vie religieuse. Et enfin, non seulement il faut l'abandon de la volonté propre, il faut cette disponibilité. Il faut encore une troisième chose qui est un détachement total, non seulement de sa volonté propre, mais des choses dans lesquelles du monde dans lequel on vit. Et ça va correspondre à la vie unitive. À la vie unitive, ça va correspondre au vœu de chasteté. Il y a même, monsieur l'abbé, vous présentez la vie religieuse avec une marque très noire. Non, pas du tout. Il faut comprendre en même temps qu'une fois que j'ai fait ce combat dans la vie religieuse, le combat contre la volonté propre, cette disponibilité, cet esprit de détachement, à ce moment-là, je trouve la véritable liberté. Qu'est-ce qui est libre dans le monde moderne ? Les gens qui sont libres dans le monde moderne, ça, il faut arriver à se mettre ça dans la tête, mes bien chers frères, les gens qui sont libres dans le monde moderne sont ceux qui sont capables de dire non aux démons. Donc, d'y dire non, trois concupiscences de la chair, des yeux et de l'orgueil. Pourquoi il y a trois vœux dans la vie religieuse ? Parce que ces trois vœux nous permettent de vaincre, avec la grâce du bon Dieu, les trois concupiscences. Contre la concupiscence des yeux, quel est le vœu qui va s'appliquer ? Le vœu de pauvreté. Contre la concupiscence de la chair, le vœu de chasteté. Et contre l'orgueil, le vœu d'obéissance. Donc, un religieux qui, avec la grâce du bon Dieu, après son noviciat, qui a commencé sa vie religieuse vraiment de façon complète avec les vœux simples puis les vœux solennels, il faut qu'il ait un vœu solennel. Il a perdu sa volonté propre. Donc, le démon n'a pratiquement plus de prise sur cette âme parce que justement, protégé par les trois vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, le religieux peut à ce moment-là trouver la véritable liberté. Les gens du monde moderne, qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Quand on voulait parler de la vie religieuse, oh, ils sont complètement fous, c'est des esclaves, ils sont dans un couvent sombre, lugubre, froid comme un glaçon. Oh, les pauvres, comme ils sont fous, comme je les peins de tout mon cœur. Mais qui sont les gens à plaindre, mes bien chers frères ? Les gens à plaindre sont les gens qui sont dans le monde moderne et qui sont constamment exposés aux tentations de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Qui sont exposés constamment aux tentations des trois concupiscences. La concupiscence des yeux, ils ont tendance à tout avoir, tout chercher, tout posséder. Concupiscence de la chair, toutes les tentations d'impureté et l'orgueil de la vie. Parce que justement, ils n'ont pas l'esprit de pauvreté, ils n'ont pas l'esprit de chasteté, ils n'ont pas l'esprit d'obéissance. C'est eux qui sont les esclaves. Essayez de faire comprendre ça au monde moderne. Faire comprendre aux jeunes modernes que justement, à partir du moment où ils suivent de façon aveugle les trois concupiscences, ils rentrent dans un esclavage total. Vous allez me dire, monsieur l'abbé, ça c'est pour la vie religieuse, c'est pour nous. Beaucoup de gens pensent de façon totalement fausse que dans le monde moderne, on n'est pas tenu par les trois vœux de pauvreté, chasteté, d'obéissance. Ce qui est vrai. Mais nous sommes tenus dans le monde moderne, pour les catholiques, à l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté et l'esprit d'obéissance. C'est ce que l'Église appelle les trois conseils évangéliques. Ça veut dire quoi, conseil ? Ça veut dire que ce n'est pas d'obligation. Les commandements de Dieu, les 10 commandements de Dieu, ils sont obligatoires. Mais se rajoutent à ces commandements des conseils. Vous voulez aller au ciel plus vite ? Vous voulez prouver, bon Dieu, que vous l'aimez un peu plus ? Pratiquez l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et donc l'esprit de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, dans le monde moderne, en 2022, est absolument nécessaire au salut dans ce sens-là. Parce que si on ne pratique pas ces trois conseils évangéliques, on n'arrive pas à lutter contre les tentations. Alors si on expliquait un petit peu comment peuvent s'appliquer justement ces trois esprits, pauvreté, chasteté, obéissance, dans le monde moderne, pour les gens qui ne sont pas dans la vie religieuse. Et ceci, c'est valable pour tout le monde. Première chose, c'est l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté, il s'oppose à la concupiscence des yeux. Concupiscence des yeux qui nous pousse à vouloir posséder tout ce qu'on voit. Contre cela, il y a l'esprit de pauvreté, l'esprit de simplicité. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ dans les Béatitudes. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce qu'on appelle la pauvreté d'esprit. Vivre dans le monde sans être, je dirais, trop attaché au bien de ce monde. On peut être attaché un peu au bien de ce monde, mais pas de façon déraisonnable. Et donc, il faut cet esprit de pauvreté. Pour ne pas être, par exemple, esclave du dernier téléphone portable, dernier cri, du dernier écran de télévision, dernier cri, du dernier écran d'ordinateur portable, et justement arriver à n'utiliser ces choses-là que comme des objets qui sont des moyens, des instruments, c'est tout. On peut avoir besoin, pour des raisons professionnelles, pour des raisons familiales même, on peut avoir besoin de bon matériel. Pour pouvoir mettre la vidéo de la messe sur Internet, pour pouvoir mettre les conférences sur Internet, j'ai besoin de bon matériel. J'ai une bonne caméra sur l'ordinateur, sur mon téléphone portable. J'ai un bon micro pour justement pouvoir utiliser correctement ces instruments que le bon Dieu me permet que j'ai afin de faire du bien aux âmes. L'esprit de pauvreté est absolument nécessaire, mes bien chers frères. Et à cause de cet esprit de pauvreté, il faut aussi faire très attention à éviter de se mettre trop dans le crédit. Puisque le monde moderne, qu'est-ce qu'il fait? Le monde moderne cherche à nous accaparer, justement, en nous faisant vivre constamment au-dessus de nos moyens. Il y a les pauvres paysans qui nous entourent ici. L'État va les pousser à avoir un matériel super sophistiqué, un matériel extra moderne. Ils n'ont pas les moyens de les payer, donc ils rentrent dans le crédit, et après ils deviennent complètement esclaves des banques. Bon, certes, dans certains cas, il est difficile de s'en passer. On est bien obligé, souvent, pour acheter une maison, de passer par un crédit. Parfois, pour une voiture, c'est pareil. Mais il faut vraiment que ce soit l'ultime chose à faire. Sortez du crédit dans le monde moderne, au maximum, pour justement retrouver cet esprit de pauvreté. Deuxième esprit qu'il faut avoir, l'esprit de chasteté. Beaucoup de gens pensent, de façon tout à fait fausse, que la chasteté, c'est pour les curés. On entend ça tout le temps. Attention! Je me permets de vous rappeler que sont tenus à la chasteté parfaite, pas simplement les curés et les religieux, sont tenus aussi à la chasteté parfaite, tous ceux qui ne sont pas mariés, tous ceux qui, étant mariés, sont hélas séparés, et tous les veufs et tous les veuves sont tenus à la chasteté parfaite. Alors, cet esprit de chasteté est absolument fondamental. La chasteté, castitas en latin, ça vient d'un mot latin qui veut dire le camp fortifié, castra castrorum, le camp fortifié, le camp militaire fortifié. Une âme chaste, c'est une âme qui est forte. Une âme chaste, c'est une âme qui est capable de lutter contre les tentations. Donc il faut absolument comprendre ces choses-là. Dans le monde moderne, le démon a compris et entoure, si vous voulez, surtout les catholiques, mais tous les hommes, mais aussi les catholiques, surtout les catholiques, parce que le catholique est un gibier de choix pour le démon. Le démon va entourer les catholiques d'une miasme, de miasme d'impureté telle que pratiquement, on ne peut pas faire autre chose que de respirer ces miasmes. Parce que le démon le sait, à force de faire vivre les gens dans une poubelle, qu'ils le veuillent ou non, ils vont finir par sortir mauvais. D'où la nécessité de cet esprit de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair. Et vous compreniez une chose, mes bien chers frères, c'est fondamental. La chasteté est une vertu du guerrier, une vertu du soldat. Pour que la chasteté puisse exister, il faut deux soutiens à cette chasteté. Jamais oublier ça. Deux vertus qui vont soutenir la chasteté. La vertu de modestie et la vertu de pudeur. Et le démon le sait. Donc la première chose que va faire le démon pour détruire la chasteté, pour les gens du monde, pour les religieux, pour les enfants, le démon va d'abord attaquer le premier soutien, la vertu de pudeur. Et il va attaquer ça chez les enfants, surtout chez les petites filles. Qu'est-ce que c'est que la vertu de pudeur? Une vertu magnifique, t'en parles pas assez. La vertu de pudeur, verecundia en latin. La verecundia, la vertu de pudeur, c'est, on peut dire étymologiquement, la honte d'être nu devant les autres, devant le regard des autres, et même devant son propre regard. Donc qu'est-ce que fait le démon? Pour pouvoir transformer les jeunes filles modernes, excusez-moi du terme, entraîné, littéralement, il va d'abord détruire la vertu de pudeur chez les enfants. Parce que si la vertu de pudeur est détruite chez les enfants, l'enfant ne va plus avoir honte de se retrouver tout nu. Et donc, le démon va ouvrir la porte à ce moment-là, à tous les abus, parce que l'enfant de 4-5 ans qui n'a pas appris à avoir honte de sa nudité devant d'autres regards, Une fois qu'il va arriver comme adolescent, il va trouver la nudité, chose parfaitement normale. Alors pourquoi faire attention dans les familles? Parfois, on voit dans certaines familles des gens qui ne font pas attention à ça, des parents très imprudents. Ils vont laisser le bébé, sous prétexte qu'il a 2-3 ans, se promener à moitié nu dans la maison. Attention! Grave erreur! Pourquoi? Parce qu'en laissant le bébé se promener tout nu dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a faute pour le bébé? Non! Est-ce qu'il y a faute pour les parents? Oui! Parce qu'en agissant ainsi, les parents, sans se rendre compte, vont détruire dans l'âme de cet enfant les principes de la vertu de chasteté. Il va détruire la vertu de pudeur. Une fois que la vertu de pudeur est détruite, la porte est ouverte à tous les abus. Pourquoi les jeunes filles modernes, les femmes modernes, pas toutes, dans leur immense majorité dans le monde moderne, si vous allez faire un tour dehors pendant 5 minutes, pourquoi les femmes modernes sont habituées sans aucun scrupule de conscience, sans aucune honte, d'être à moitié nues dans la rue, sur les plages? Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu justement cette vertu de pudeur. D'où la nécessité pour les parents de veiller à ce que cette vertu de pudeur soit inculquée aux plus jeunes enfants, surtout aux jeunes filles. N'oubliez pas ce que disaient les francs-maçons au 19e siècle. Pour détruire l'Église, il faut détruire la femme. Et comme on ne peut pas détruire la femme, on va la corrompre. Comment se passe cette corruption? La corruption de la femme passe par la destruction de la vertu de pudeur chez les tout-petits. Avec cette vertu de pudeur, qui est aussi importante pour les hommes, mais qui est encore plus importante pour les femmes, parce que la femme, par excellence, c'est la volonté du bon Dieu, va chercher à plaire. Pourquoi? Parce que la femme, naturellement, utilise d'abord son cœur, puis sa cervelle. L'homme est supposé, je dis bien supposé, de faire le contraire. Il utilise d'abord sa cervelle, et ensuite le cœur. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, cette vertu de pudeur va permettre la vertu de modestie. La vertu de modestie, surtout dans la façon de s'habiller. Et si vous avez la pudeur et la modestie, vous avez les deux piliers pour que la vertu de chasteté soit là. Vous voyez, c'est comme ça que travaille le démon. Il faut comprendre ces choses-là, mes bien chers frères. Impérativement comprendre ces choses-là, qui sont absolument fondamentales. Donc l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté sont nécessaires au salut. On ne peut pas rester en état de grâce sans l'esprit de pauvreté et l'esprit de chasteté. Il faut aussi l'esprit d'obéissance. C'est aussi pour lutter contre l'orgueil. L'esprit d'obéissance est aussi très important, surtout dans les familles. Alors bien sûr, il faut encore une fois voir les choses en face, mais ne pas oublier certains détails qui n'en sont pas. L'esprit d'obéissance dans la famille, c'est d'abord une conséquence du péché originel. Le bon Dieu a voulu, après le péché originel, qui est entre autres chez les femmes, qui sont mariées, une conséquence terrible du péché originel, tu seras soumise à ton mari. Donc c'est le mari qui est chef de famille. Mais attention, l'esprit d'obéissance, ça marche aussi pour les hommes. Il ne faut pas que les hommes se disent « je suis chef de famille, donc je traite mon épouse comme s'il était une esclave ». Non! Parce que qu'est-ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ? Notre Seigneur Jésus-Christ dit aux époux « vous devez aimer votre épouse comme le Christ a aimé son Église ». Comment le Christ a-t-il aimé son Église? Le Christ a aimé son Église en mourant pour elle sur la croix. Donc, l'époux doit faire très très attention, justement, d'avoir ce respect extraordinaire pour son épouse, précisément parce qu'elle est le cœur de la famille. Il faut une tête, il faut aussi un cœur. On peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir dans le corps humain qu'est-ce qui est plus important, le cœur ou la cervelle. Vous pouvez discuter pendant des heures, ça ne sert à rien. Et pas de cœur, vous mourrez. Et pas de cervelle, vous mourrez aussi. Il faut les deux. Il faut les deux. Donc attention à ça. Cet esprit justement d'obéissance va aider justement l'homme catholique de respecter son épouse. Et si les hommes modernes, hélas, ont accepté que leurs épouses se comportent littéralement comme des prostituées dans le monde moderne, c'est précisément parce qu'ils ont perdu tout respect pour leur épouse et pour la mère de leurs enfants. Et donc, il faut revenir impérativement, bien cher frère, à ces choses qui sont absolument fondamentales. Avoir cet esprit de chasteté qui consiste justement pour l'homme à ne jamais tomber dans cet esprit d'esprit, on utilise un terme moderne pour ça, le macho, comme les gens modernes disent. Le macho, c'est celui qui littéralement traite son épouse comme une esclave. Jamais, jamais ça dans une famille catholique, mes bien chers frères. Jamais ça dans une famille catholique. Donc demandons en cette fête de cette grande religieuse qui a été Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Demandons d'avoir cet esprit de pauvreté, cet esprit de chasteté, cet esprit d'obéissance, même si vous n'êtes pas tenu par les trois vœux de pauvreté, chasteté et d'obéissance. Encore une fois, vous êtes tenu par l'esprit de pauvreté, l'esprit de chasteté, l'esprit d'obéissance. Et à ce moment-là, vous aurez les protections du bon Dieu. À ce moment-là, vous aurez toutes les aides de la Très Sainte Vierge Marie. S'il y en a une qui a pratiqué l'esprit d'obéissance de façon extraordinaire, c'est bien la Très Sainte Vierge Marie, à l'égard de Saint Joseph. Elle aurait pu dire, je suis la mère de Dieu. Et obliger Saint Joseph à être numéro 2 dans la famille. Non. Saint Joseph, qui était pourtant le moins saint des trois dans la Sainte Famille, c'est lui qui dirigeait la maison. La Très Sainte Vierge Marie nous a donné aussi un magnifique exemple de chasteté, puisqu'elle est l'Immaculée Conception. Le bon Dieu n'a pas voulu que sa mère, celle qui va lui donner sa nature humaine, il n'a jamais permis que sa mère soit même effleurée par la moindre pensée d'impureté, à cause de son éminente dignité. Et elle a pratiqué aussi de façon extraordinaire aussi l'esprit de pauvreté, le détachement total de tous les biens de ce monde. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à Notre-Dame, demandons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ces grâces dont nous avons besoin, justement pour nous couper de cet esprit du monde. Encore une fois, les gens du monde vont croire que parce qu'ils ont tous les biens extérieurs, parce qu'ils peuvent se vautrer dans les concupiscences de la chair, concupiscences des yeux, dans l'orgueil, ils vont trouver la liberté. Quand on se vautre dans l'orgueil, quand on se vautre dans l'impureté, quand on se vautre dans les richesses du monde moderne, que le monde moderne peut fournir, on trouve l'esclavage, mes chers frères. Ne devenez pas des esclaves. Sortez de cet esclavage. Et ça ne se fait pas sans coupure. Il faut couper avec l'esprit du monde. Pas totalement. C'est là encore une fois où la vertu de prudence va intervenir. Un père de famille, évidemment, doit nourrir sa famille. Vous avez le droit d'être attaché de façon raisonnable aux biens de ce monde. Mais il faut encore une fois ne pas obliger que ces biens du monde, de ce monde ne soient que des instruments pour atteindre la fin pour laquelle nous avons été créés. La fin pour laquelle vous et moi nous avons été créés, Dieu, le bon Dieu. Donc demandons à la Très Sainte Vierge Marie, demandons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aujourd'hui, où c'est ça, nous fêtons sa solennité, demandons à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus toutes ces grâces dont nous avons besoin, afin justement de retrouver l'esprit de ces trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance, c'est-à-dire l'esprit, tout simplement, l'esprit d'Église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.